Il est 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Merci d'écouter.
Arthur Ponchelet.
À la une ce soir, fin du suspense au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema l'emporte haut la main, plus de 90% des voix. Selon les résultats provisoires, le chef de la transition laisse ses concurrents loin derrière, 3% pour Alain-Claude Bili-Binzé. Et à l'annonce des résultats, le QG de campagne du président candidat a exulté. On est à Libreville dans un instant. Dans ce journal aussi, l'un des plus grands camps de déplacés de la guerre au Soudan, aux mains des paramilitaires. Ce sont eux qu'ils revendiquent ce soir, après un week-end de particulier. Particulièrement meurtrier. Une centaine de civils a été tué dans le pays. Et puis, courir entre le Louvre, la Tour Eiffel et la place de la Concorde, 55 000 chanceux y ont eu droit aujourd'hui. C'était le marathon de Paris. Reportage à la fin de ce journal. Ses soutiens lui prédisaient un score à la soviétique. C'est désormais chose faite. Brice Clotaire Oligui Nguema devrait s'installer au palais du bord de mer pour 7 ans. Le président candidat obtient 90,35% des voix à la présidentielle gabonaise. Chiffre encore provisoire puisque la Cour constitutionnelle a 8 jours pour les valider. Celui qui a renversé la dynastie Bongo il y a 19 mois a suivi les résultats en direct de son QG de campagne au milieu de militants surexcités. Reportage Yves-Laurent Gomin.
Arrivée triomphale de Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Zita au QG de campagne. Assis en face d'un écran géant, Oligui Nguema a suivi en direct la publication des résultats. La foule a exulté dès l'annonce de la victoire du général qui a mis une pause dans sa carrière militaire. L'euphorie a gagné les adeptes de l'ancien putschiste devenu président élu.
Il n'y a pas de char, le wifi passe 24 sur 24.
Les gens font comme si on était le 31 août, on attendait le 1er janvier. C'est quand même exceptionnel, c'est spirituel.
Nous sommes plus que satisfaits de ce qui est en train de se vivre et se passer au Gabon. Après près de 20 ans, c'est aujourd'hui qu'on participe à une élection sans enlèvement, sans agression, sans vol, sans bagarre entre les civils et les agents de sécurité. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau Gabon, c'est un Gabon d'espérance.
Dans une brève allocution, Oligui Nguema a demandé à tous les Gabonais de tourner la page de la campagne électorale et de reprendre le travail dès ce lundi pour bâtir le Gabon digne d'envie qu'il leur a promis. Yves-Laurent Gomin, Libreville. RFI.
Voilà la joie donc des supporters de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire, François Mazet, que sa victoire est écrasante.
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a communiqué en fin d'après-midi les résultats, Brice Clotaire Oligui Nguema obtient 90,35% des suffrages. À l'exception de la diaspora, il dépasse les 93% partout au Gabon, ne laissant donc que des miettes à ses adversaires. Alain-Claude Bili-Binzé arrive deuxième avec à peine plus de 3%. Les six autres ne dépassent pas 1%. Ils ont maintenant 8 jours pour former des recours devant la Cour constitutionnelle. La participation a été revue à la baisse par le ministère. 70,4% contre 87% estimé hier soir, du fait que les bureaux témoins sont dans les grandes villes, a justifié Herman Imongo. Parmi les déçus, Alain-Claude Bili-Binzé a donné rendez-vous lundi matin pour une réaction. Ceux qui avaient appelé à s'abstenir jugent que ces résultats ont été gonflés. Le syndicaliste Jean-Rémy Yama estime que le général Oligui Nguema n'avait pas besoin des pratiques de l'ancien système pour gagner. Il partage sa tristesse de voir la transition, je cite, « entrer par la grande porte, mais sortir par la fenêtre ». François Mazet, Libreville, RFI.
Et ce soir, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron. Le président français a félicité son homologue pour sa victoire. Ses résultats provisoires de la présidentielle gabonaise. On en parle aussi demain sur RFI. Juan Gomez vous attend dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à partir de 8h10, temps universel. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site RFI.fr pour lire un portrait complet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le reste de l'actualité, le président fédéral de l'UDPS au Nord Kivu a été enlevé à Goma, annonce aujourd'hui du parti présidentiel en RDC. Son chef, Augustin Kabuya, dit que Siraji Nyalamba Kivurunga a été enlevé chez lui dans la nuit de samedi à dimanche par le M23. Il dénonce une politique d'acharnement, demande sa libération et appelle à ce que les droits et les libertés des citoyens congolais soient garantis dans les zones contrôlées par les agresseurs. Fin de citation. La RDC, c'est aussi ce nouveau médiateur de l'Union africaine pour la guerre dans l'Est. Fornia Singbe a accepté cette mission, c'est ce que dit la diplomatie togolaise. Le président du Togo succède donc à son homologue angolais, João Lourenço, qui lui a renoncé à ce rôle le mois dernier. À l'écoute de RFI, 22h35 en temps universel. La guerre au Soudan et les paramilitaires qui revendiquent ce soir la prise de Zamzam. Cet immense camp abrite un demi-million de déplacés. Affrontement particulièrement meurtrier ce week-end. Une centaine de civils tués en deux jours dans des attaques imputées au FSR. C'est ce que disent plusieurs sources humanitaires locales. Et aux morts qui se comptent par dizaines de milliers depuis bientôt deux ans, s'ajoutent aussi des violences sexuelles. Ça, c'est ce que dit Amnesty International dans un rapport. L'ONG a recensé plusieurs viols et parfois même de l'esclavage sexuel imposé à des femmes et des mineurs. Aymeric Éluin est chargé de plaidoyer à Amnesty.
Ce sont des crimes qui sont commis réellement en toute impunité. C'est-à-dire que vous avez les forces de soutien rapide en tenue de soldats armés au vu et au su de tous qui vont violer et commettre des actes sexuels relevant de violations des droits humains devant tout le monde. Nous, ce que l'on rapporte, on en a bien conscience, c'est une infime partie de ce qui se passe. Mais ça vient s'ajouter à l'ensemble des autres actes de violation des droits humains qui ont été commis jusqu'à maintenant et recensés par d'autres. Et nous, nous parlons, comme d'autres d'ailleurs, de crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. On peut considérer aujourd'hui que ces violences sont généralisées et systématiques à l'encontre de la population civile et sont faites en connaissance de cette action menée par l'ensemble des forces de soutien rapide, c'est-à-dire que les soldats sont bien au courant que les unités et le groupe paramilitaire auquel ils appartiennent a l'ambition de mener ce type d'attaque pour humilier les femmes, détruire le corps des femmes, une pratique qui est utilisée pour déshumaniser les femmes.
Propos recueillis par Ouda Ibrahim et noté que ce mardi marquera les deux ans de la guerre au Soudan. On y reviendra évidemment sur RFI, édition spéciale sur la radio du monde. Deux groupes armés ont revendiqué aujourd'hui des attaques contre des sites pétroliers dans le sud du Nigeria. L'armée de libération du delta du Niger et de Bakassi et le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger disent avoir attaqué la conduite principale d'un terminal pétrolier dans l'état de Bayelsa. C'était cette semaine. Oando, la compagnie pétrolière nigériane, a indiqué qu'il y avait eu trois attaques distinctes contre ces oléoducs. Du sport, avant de refermer ce journal, 2h05, c'est la performance de Bernard Biwott aujourd'hui pour parcourir 42 km 195. Le Kenyan a remporté le marathon de Paris ce matin. Chez les femmes, l'Éthiopienne Bedatu Hirpa a bouclé l'épreuve en 2h20. Et ils ne sont pas les seuls coureurs du continent à s'être illustrés aujourd'hui. Des centaines de joggeurs africains ont tenté l'expérience et couru entre le Grand Palais, le Louvre et la place de la Bastille. Reportage, Saliou Diouf.
Quand on aperçoit Giavieux sur la ligne de départ, on remarque tout de suite sa tenue aux couleurs d'un pays d'Afrique subsaharienne. Du coup, quand on lui demande d'où il vient...
Yaoundé, tout droit du Cameroun pour le marathon de Paris. C'est le tout premier marathon de ma vie.
La première fois, mais avec un objectif de temps...
3h45.
Se fixer une limite de temps, c'est ce qu'a fait Amine, marocain originaire d'Oujda. Il relativise, même s'il n'est pas tout à fait satisfait par sa performance.
Je comptais faire 3h05, mais finalement j'ai fait 3h08. Mais il y a une difficulté dans ce marathon quand même. Je trouve que pour la difficulté, 3-8, ça vaut facilement 3-4, 3-3.
Il explique les difficultés rencontrées dans son parcours.
C'est les montées, il y a beaucoup de montées. Et même les descentes, il ne faut pas les sous-estimer parce que ça engage pas mal de muscles sur les descentes.
Un autre facteur pour Amine, une préparation différente cette année.
Avec le ramadan, c'était un peu compliqué. Je courais le soir, donc je ne mangeais pas assez pour aller courir. Donc je mangeais des petits toasts, comme un petit déjeuner rapide pour aller courir après 2h.
Les deux joggeurs comptent revenir l'année prochaine pour l'édition 2026.
Reportage RFI, Saliou Diouf et cette 48e édition du Marathon de Paris à retrouver aussi en images sur notre site rfi.fr. Et puis, on a appris une disparition aujourd'hui, celle du dramaturge franco-béninois José Plia, chargé de mission aux arts et à la culture de Patrice Talon. Il est mort hier guerre à Miami aux États-Unis. Il avait 58 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. 22h40 en temps universel, 2 heures de plus ici à Paris. Tout de suite, c'est Afrique, mémoire d'un continent. Très belle soirée à l'écoute de RFI.